BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Dans un instant, pour démarrer cette deuxième heure, on file à Francfort, retrouver Aude Kersulec, mais auparavant, toute l'actu éco avec Faïza Younzi.
BFM Business, l'info éco, Faïza Younzi.
L'heure de vérité pour la réforme des retraites. Le Sénat vient d'adopter définitivement la réforme. Emmanuel Macron réunit pour la deuxième fois aujourd'hui les chefs du camp présidentiel. Ce sera dans une heure à l'Élysée. Je vous rappelle qu'hier, la commission mixte paritaire a finalement abouti à un compromis. Le texte doit être désormais soumis au vote de l'Assemblée nationale cet après-midi. Un vote considéré comme très risqué, très incertain. Des députés Les Républicains pourraient bien faire pencher la balance. Le président de la République doit trancher, soumettre le texte au vote cet après-midi, ou bien décider d'engager l'article 49.3. Le calme après la tempête, l'action Crédit Suisse remonte après les mesures annoncées par les autorités helvétiques. La Banque Nationale Suisse lui accorde un emprunt à près de 50 milliards d'euros. Elle a également rassuré les marchés en affirmant que Crédit Suisse répondait à toutes les exigences en matière de capital et de liquidité. Hier, la banque a quasiment perdu un tiers de sa valeur boursière, entraînant dans sa chute tout le secteur bancaire en Europe qui se reprend un peu ce matin. Alors c'est dans ce contexte mouvementé que la BCE finit de réunir ses gouverneurs. Nous serons en disposition spéciale dès 14h tout à l'heure pour suivre toutes les annonces de la présidente Christine Lagarde. Et tout de suite après ce journal, on retrouvera en direct Aude Kersulec depuis Francfort pour savoir à quoi il faut s'attendre cet après-midi. L'INSEE a revu ses prévisions de croissance à la baisse. Elle sera modeste au premier semestre en France. Le PIB devra enregistrer une hausse de 0,1% entre janvier et mars, puis 0,2% sur les trois mois suivants. La consommation des ménages est toujours plombée par l'inflation, notamment l'inflation des produits alimentaires. Cette hausse des prix est de 6,3%. Elle devrait ralentir autour de 5% en juin, nous dit l'INSEE. Le ton monte entre Pékin et Washington au sujet de TikTok. La Chine a réagi à l'ultimatum des États-Unis et leur demande de cesser les attaques qu'elle juge injustifiées contre l'application. Les États-Unis ont demandé à Biden, sa maison mère, de vendre TikTok pour des raisons de sécurité nationale. Condition sine qua non pour que TikTok reste autorisé aux États-Unis. Le groupe canadien Couche-Tard revient dans l'actualité. Il va racheter les stations-service de Total Energy en Allemagne et aux Pays-Bas. 1600 magasins au total pour plus de 3 milliards d'euros. Le groupe pétrolier dit, lui, vouloir se préparer à la fin de la vente des véhicules thermiques en Europe en 2035. Et on termine avec l'ascension d'Iliad, la maison mère de Free, désormais 6e opérateur de télécom en Europe. Son bénéfice a bondi de 44% à 760 millions d'euros en 2022, grâce notamment à sa croissance sur les marchés italiens, polonais et français. Iliad a dépassé son objectif de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
Merci Faïza. Tout de suite, on file à Francfort.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on y retrouve Aude Kersulec qui suit pour BFM Business cette journée typée Banque Centrale Européenne. Que va faire Christine Lagarde aujourd'hui, Aude? Est-ce qu'il est tout le temps, ou toujours plutôt, question de hausse de taux?
Alors c'est vrai que cette réunion prend une toute autre tournure que ce à quoi on pouvait s'attendre encore il y a une semaine. On attend des réponses fortes de la BCE, puisque au problème d'inflation est venu s'ajouter le problème d'instabilité financière. Alors le problème de l'inflation, d'un côté, il est toujours là, hein, on l'a vu dans les derniers chiffres de la zone euro pour février, toujours au-dessus de 8,5% en rythme annuel. Ça faiblit pas non plus du côté de l'inflation sous-jacente, ça veut dire que l'inflation s'enracine. Alors c'est pour ça qu'on monte les taux hein, depuis le mois de juillet. Mais cette hausse de taux rapide, inédite, elle a fragilisé certains secteurs. La tech notamment, on l'a vu alors, la semaine dernière avec ces trois faillites du côté des États-Unis, trois faillites de banques. Et puis ce risque sur le Crédit Suisse depuis hier. Crédit Suisse qui a été largement attaqué sur les marchés alors que c'est une banque systémique qui met donc en risque la stabilité financière de la zone euro. La stabilité financière, c'est justement une des prérogatives aussi de la Banque Centrale Européenne qui va donc devoir choisir entre lutte contre l'inflation, une hausse de taux de 50 points de base, comme elle l'avait promis, ou bien la préservation de la stabilité financière, ce qui est aussi évidemment un de ses objectifs.
Quelles sont les possibilités finalement qui s'offrent à cette fameuse BCE? On a une idée des annonces qu'on attend?
Alors, il va falloir communiquer pour rassurer. Alors déjà, Christine Lagarde va devoir rassurer sur l'état des banques de la zone euro. Les banques de la zone euro sont-elles suffisamment capitalisées en termes d'exigences de fonds propres? Est-ce qu'elles ont assez de liquidités pour faire face aux vagues de retrait comme a pu connaître SVB la semaine dernière aux États-Unis? On imagine que Christine Lagarde a eu hier, dans le courant de la journée, les dirigeants de Crédit Suisse au téléphone aussi, ainsi que les autorités suisse. Elle va donc pouvoir donner un avis sur la santé de la banque suisse. On s'attend aussi à ce que la BCE mette en place un programme de liquidité pour les banques qui en auraient besoin, comme l'a fait la Réserve fédérale pendant le week-end et hier la Banque nationale suisse. Sauf que quand on intervient un peu après la bataille, on s'attend à ce que les montants mis en jeu soient encore plus importants que ce qui avait été annoncé du côté de Washington. Le but, c'est de ne pas éroder la confiance sur le marché et encore moins sur le marché interbancaire entre les banques qui se prêtent. C'est le véritable système sanguin de l'économie et un bank run, ça vient généralement de là. En ce qui concerne la remontée des taux, là, ça va être le gros débat entre les gouverneurs parce que Christine Lagarde avait préannoncé 50 points de base en février pour cette réunion du mois de mars, mais on n'avait pas ce problème d'instabilité financière. C'était une forte intention, d'ailleurs, avait dit Christine Lagarde, et pas un engagement. Alors, est-ce qu'elle pourra revenir sur cette forte intention? Les avis sont partagés parmi les observateurs, parce que certains disent que si elle ne fait pas 50 points de base, elle remet en jeu sa crédibilité. Mais 50 points de base pourrait fragiliser davantage le système bancaire. Et ça, c'est l'appel plusieurs personnalités, notamment le président de la Banque de la Société Générale, Lorenzo Binismaghi, bien qu'il disait qu'il fallait faire soit une pause, soit 25 points de base, et qu'il fallait l'expliquer. Ça va être ça aussi tout l'enjeu de la réunion cet après-midi.
Bien sûr.
Un vrai exercice de communication. Et là, ce sera pour la conférence de presse, donc à 14h45.
Et on suivra tout ça, notamment grâce à vous, Aude, depuis Francfort. On reste connecté en quelque sorte à cette question et au marché action grâce à Frédéric Rosier, qui nous attend chez Mirabeau. Bonjour Frédéric. Frédéric, vous nous entendez?
Je vous entends très bien. Vous m'entendez?
Eh bien oui, parfaitement. Voilà. Qu'est-ce qu'on se dit sur ces marchés après le coup de tabac d'hier et en attendant effectivement cette banque centrale?
D'ailleurs, vous le voyez, c'est quand même... Alors, Crédit Suisse connaît un rebond qui annule ses pertes d'hier. Ça reste quand même un rebond assez timide, notamment sur le secteur bancaire. Alors, bien sûr, ça monte de 1,70 sur le BNP, Société Générale, une progression somme toute limitée, on est quasiment à l'équilibre. Donc, on voit bien que entre l'attente de la BCE, ce discours qui est quand même extrêmement rassurant de la part de la FINMA et de la BNS, la Banque Centrale Suisse, sur notamment la capacité, en tout cas la nature des fonds propres de Crédit Suisse. On voit quand même que lorsque vous avez évoqué un bank run, mais c'est surtout de la défiance sur un secteur qui était surreprésenté globalement dans la plupart des gestions. Je pense que aucun intervenant n'est venu sur votre plateau et en disant du mal des banques, en tout cas jusqu'à il y a une quinzaine de jours. Donc c'est vrai, un secteur extrêmement représenté, et on voit bien qu'aujourd'hui il y a des doutes. Alors il y a des doutes, bien sûr, aujourd'hui, qui sont pas avérés, honnêtement. On est très très loin de ça sur les banques, sur les banques européennes, mais aussi par rapport au cycle économique. Et on sait que les banques elles ont quelque part une fragilité en termes de progression boursière lorsque on remet en cause notamment la trajectoire de croissance. Donc c'est un peu cette remise en cause aujourd'hui qu'on a, et aussi sur les taux. On a vu quand même les taux 10 ans rebaisser quand même de manière assez significative en Europe, et on le sait, les banques sont très sensibles à ce mouvement de taux. Donc voilà pourquoi ça rebondit pas énormément aujourd'hui.
Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Rosier pour Mirabeau. Tout de suite, l'œil du stratège.
BFM Business, BFM Patrimoine, l'œil du stratège.
L'œil ce matin de Marc Riez. Bonjour Marc. Merci d'être avec nous pour Vega IM. Allez, on met les pieds dans le plat, il y a un problème bancaire?
Il y a un problème déjà de confiance. Et ça, c'est quand même assez grave pour les banques, parce qu'on voit bien que cette explosion un peu de SVB a mis en lumière un questionnement qui était déjà latent, qui est de dire, mais finalement, les banques qui avaient beaucoup de dépôts pendant longtemps, puisqu'en fait, l'argent ne rapportait rien. Donc, beaucoup de gens laissaient leur argent sur des comptes courants non rémunérés. Voilà. Ben, finalement, maintenant que l'argent rapporte, ils veulent le placer. Et en le plaçant, eh bien, ils le retirent des comptes de dépôt. Donc,
ça veut dire que voilà. tous ces retraits qu'on évoque, oui. ces déplacements de liquidités, ça n'est pas forcément une crise de confiance, ce n'est pas forcément de la défiance, c'est aussi un
au
choix
départ,
patrimonial.
Au départ, c'est juste, je pense, une opportunité de se dire, bah, cet argent qui jusqu'à maintenant ne m'a rien rapporté, maintenant va me rapporter, et donc je ne le laisse plus là. Ça, c'est l'élément. Après, le deuxième élément, c'est qu'une banque qui est très solide arrive à contourner ce problème en trouvant de l'argent à des prix raisonnables ou auprès des banques centrales, etc. Et évidemment, c'est un peu comme la marée, c'est que ça fait apparaître ceux des acteurs qui n'avaient pas de maillot et donc ceux notamment qui avaient fait des mauvais choix de gestion dans le passé. Alors, on l'avait vu avec SVB trop concentré sur le secteur de la technologie
et de l'obligataire
un peu plus dans ses placements de l'obligataire qui a baissé. Et Crédit Suisse, c'est pas une nouveauté que
mais c'est ce que nous rappelait Nicolas Loos tout à l'heure, c'est que personne n'a été surpris que Crédit Suisse
soit
dans l'actualité.
Marchés,
voilà, ça fait plusieurs semaines qu'on attend des publications qui ne viennent pas. Enfin,
clairement. Hier, il y a eu déjà ces événements en 2021, on se souvient, l'homme d'affaires, là, Sanjeev Gupta avec Greensill, ensuite Archegos, enfin, on voit bien qu'ils ont fait vraiment de mauvais choix, les dirigeants sont pas toujours très crédibles.
On voit depuis vendredi, et le moment où a éclaté finalement ces doutes sur SVB, et l'action des pouvoirs américains qui n'ont pas lésiné, qui n'ont pas traîné ce week-end, et peut-être du fait qu'il y ait ces réunions de banque centrale qui se profilent très vite, la BCE aujourd'hui, la Fed le 22. Est-ce que tout ça vous fait dire que c'est une crise financière ?
Oui, quand même, parce que le fait générateur de cette crise financière, c'est la manière dont les banques centrales ont voulu lutter contre l'inflation. D'abord le fait qu'elles se sont réveillées un peu tard, à un moment donné, et ensuite le fait que s'étant réveillées tard, elles ont fait très vite et très fort. Alors, la BCE, dans une moindre mesure, est toujours un peu à la traîne, mais la Fed, elle a quand même remonté de 0 à 4,5 en 7 mois. Donc ça, c'est quand même un mouvement qu'on n'avait jamais vu, et forcément, ça a fait baisser la valeur des actions sur les marchés, ça a fait baisser pas mal d'actifs, finalement, que les banques ou d'autres investisseurs détenaient. Donc il y a quand même... une petite réminiscence de 2008 au moment où la Fed, vous vous souvenez, avait aussi remonté ses taux de zéro, avait dépassé 5,25 à un moment, voilà. Donc il y a quand même cette similitude.
Bon, malgré tout, on voit ce matin, on a vu ce week-end que les autorités américaines avaient finalement réagi et plutôt rassuré.
Oui. Ils ont compris qu'il fallait pas laisser le truc.
On voit cette nuit que, pareil, la Suisse semble, quand on regarde en tout cas le cours de Crédit Suisse, semble avoir aussi joué son rôle comme les marchés semblaient le souhaiter. Du coup, le coup de bambou d'hier, je paraphrase un peu mon petit camarade Guillaume Sommerer qui a tweeté ça hier, parce que c'est aussi important qu'on soit là sur BFM Business pour qualifier un petit peu ces mouvements et pour noter leur importance. Et Guillaume a dit sur l'échelle de Richter des bains de sang boursiers, on est probablement à 4 sur 10 aujourd'hui, elle est 5 sur 10 pour le secteur bancaire, 9 sur 10 bien sûr sur Crédit Suisse, et il rappelait dans ce tweet que le CAC gagnait quand même malgré tout encore du terrain depuis le début de l'année, si c'est quelques
Oui.
Vous, s'il fallait prendre une échelle, alors je ne sais pas si on l'appelle de Richter ou de Sommerer, le coup de bambou d'hier, là, vous le noteriez combien sur 10 ?
4-5 aussi.
Ouais, c'est ça.
4-5 aussi.
Donc c'était pas à la fin du mois.
Si vous voulez, la grosse différence par rapport à 2008, c'est justement cette réactivité qu'on n'a pas eue en 2008. Souvenez, en 2008, ils s'interrogeaient, est-ce qu'il fallait sauver un tel ? Ils ont laissé faire faillite à Lehman, etc. Donc ce qui a vraiment fait que la crise a été grave à l'époque, c'est aussi les erreurs de réaction du système de régulation à cette crise. Aujourd'hui, je pense que les leçons ont été tirées et on a vu la Réserve fédérale agir très très vite en tant que régulateur et en tant qu'apporteur de fonds et de la même manière les Suisses hier soir, cette nuit. Bon, donc le sentiment que ça me donne, c'est que ça va pas déraper en tremblement de terre 7-8, avec destruction de beaucoup de maisons, etc., grâce à l'expérience, justement, qui a été acquise à cette époque, voilà. Ouais. Et bon. Du fait qu'il n'est absolument pas possible de laisser le Crédit Suisse faire faillite. Parce qu'on a vu la taille de son bilan, hein, à peu près 1200 milliards de dollars. Je rappelle que c'est à peu près 4 fois la dette de l'État grec à l'époque de la crise grecque de 2011-2012.
Et comme le disait tout à l'heure Nicolas Dose dans sa polémique, est-ce qu'il est temps peut-être, ou Jean-Louis Cussac, je ne sais plus, est-ce qu'il est temps que les banques communiquent sur leur relation avec Crédit Suisse, histoire qu'on voit quelle est... Allez, je ne sais pas s'il faut mettre des énormes guillemets, l'exposition, par exemple, de BNP, de SocGen, de au Crédit Suisse.
La réaction des marchés d'hier, elle est la traduction de l'ampleur de cette exposition. Hein. On a vu que dans les banques, même la BNP, qui est jugée comme une banque quand même extrêmement solide en termes de ratio prudentiel, de capitalisation...
Donc le marché le sait, il n'y a pas besoin de communication.
Voilà, auprès des analystes, ils ont communiqué. Alors après, c'est... Il n'y a pas eu de publication grand public, je dirais. Mais voilà, les gérants ont une idée assez précise de la taille de cette exposition. Et c'est ce qui a été reflété par le fait que même une banque comme BNP, pourtant très solide, on l'a vu très rentable, puisqu'on a vu qu'elle avait gagné plus de 10 milliards l'année dernière, etc., a perdu 10%, ce qui est beaucoup. Hein.
Dans ce monde de tension sur le secteur bancaire, on a nos banques centrales qui se profilent. Une, cet après-midi.
C'est ça.
Christine Lagarde. Vous aimeriez être à la place de Christine Lagarde en ce moment pour préparer votre conseil des gouverneurs?
Pas trop. C'est d'une manière générale. Alors, c'est un job qui est quand même plus facile que celui de gouverneur de la Fed, parce que finalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils copient dans une certaine proportion et avec un certain délai.
On inscrit au calendrier avec X semaines de retard la décision qui vient d'être actée de l'autre côté.
Faire comme les ricains, un peu moins et un peu plus tard. Bon, alors, c'est pas... Donc finalement, voilà.
Mais qu'est-ce qu'elle peut faire
aujourd'hui?
On le sait, 0, 25 ou 50. En clair, c'est ce qui est sur sa table en ce moment même, dont ils doivent discuter tous ensemble. On a tendance à dire 0, ce serait presque la Bérésina, parce qu'on se dirait qu'il y a un gros problème. 50,
ça inquiéterait beaucoup plus que ça ne rassure.
Voilà, 50, ce serait un peu nier ce qui s'est passé. 25 serait bien. Vous voyez les choses comment? C'est un bon résumé?
Oui, je pense que c'est un bon résumé. Je pense qu'après, le marché attendait jusqu'à ces événements 50.
Oui, elle nous l'avait quasiment annoncé.
Voilà, donc ne pas faire 50, c'est déjà donner à ce cas particulier du Crédit Suisse une résonance.
Donc il faut qu'elle fasse 50.
Je pense que ce qui fondamentalement rassurerait le plus les investisseurs, ce serait qu'elle fasse 50 comme si de rien n'était. Voilà, parce que là, on se dirait, ils ont les moyens de juguler un problème identifié.
Donc le whatever it takes de Christine Lagarde, c'est le 50 d'aujourd'hui.
Il me semble. Après, effectivement, si elles vont envoyer au marché le signal que y a un problème et qu'elle en tient compte, etc., elle peut à la limite faire 25. Mais ce sera déjà perçu comme un signal de faiblesse dans la lutte de l'inflation. Par contre, si elle fait zéro, là, ce sera très mal perçu. Ouais.
Bon, après, il y a la Fed, c'est le 22, après, c'est pas si loin. Voilà. Et là aussi, sans nul doute, il sera attendu. Il y en a quelques-uns qui commencent à se dire, vu tout ça, vu d'autres éléments...
Ils pourraient faire zéro.
Ouais, enfin, il y en a même qui vont plus loin, c'est chez Nomura, ils nous disent moins 0,25.
Ah, ça, j'y crois pas. J'y crois pas parce que, si vous voulez, il y a une question de crédibilité du discours qui est très précieuse pour eux. Or, vous l'avez vu, il a témoigné devant le Congrès la semaine dernière pendant deux jours.
C'était très au quiche et on pensait qu'il ferait 50.
Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, il y a de bonnes chances qu'il ne fasse que 0,25 comme la dernière fois. Puisque, somme toute, 0,25, ça ne le grille pas. C'est dans la continuité de ce qu'il a fait la fois d'avant. Il tient un peu compte quand même de ce qui se passe, sans se renier complètement. Zéro ou moins que zéro, ce serait vraiment l'aveu de quelque chose d'une vraie erreur. Et je pense que ça pourrait affecter sa crédibilité. Par contre, effectivement, je pense que le 0,50, maintenant, il y a quand même assez peu de chances qu'il le fasse, parce que ça montrerait quand même une réaccélération par rapport à la fois dernière. Ça ferait beaucoup dans ce contexte.
Bon.
Donc moi, je donnerais 0,25 pour la Fed. Peut-être 0,50 pour la BCE, peut-être 0,25 pour la Fed.
Voilà donc pour nos banques centrales. Les marchés, ils ont donc eu ce petit coup de bambou, oui, dont on a déjà parlé. Mais jusqu'à présent, on avait l'impression que le goût du risque revenait et que finalement, ça priçait aussi, ou ça prenait en compte, pour parler un meilleur français, la fin de la saison des résultats.
C'est ça.
Le fait qu'effectivement il y avait a priori pas de récession dans l'air, mais surtout parce que c'est le job des marchés aussi de donner un prix aux actions des entreprises et donc à leurs résultats, à leurs bénéfices. Aujourd'hui, la saison se termine bien. Oui, les boîtes ont fait le job, et notamment peut-être encore plus en Europe. Oui. Elles sont beaucoup moins endettées, elles ont pris les leçons là aussi des crises passées, notamment de la crise de la dette en zone euro. Est-ce que tout ça s'est un peu remis en question aussi, s'il y a des tensions bancaires, si les banques prêtent moins, et donc est-ce qu'il faut déjà le prendre en compte dans son allocation et se dire finalement, ma part action, aujourd'hui, il serait peut-être temps de l'adapter. Comment est-ce que vous voyez les choses chez Vega ?
Nous, on voit plutôt cette correction là de 6-7% sur la semaine, pour l'instant comme une opportunité de réinvestir. Parce qu'on se dit... Voilà, on a un discount qui est quand même non négligeable sur les prix d'il y a une semaine. Et l'impact, en fait, du fait que les banques pourront peut-être moins prêter, c'est pas quelque chose aujourd'hui qu'on peut mesurer de manière très, très nette. Certaine, ouais. La plupart des banques, des boîtes en plus, sur lesquelles nous, Vega, allons, qui sont des sociétés de croissance, qui génèrent du cash, etc., elles sont pas tellement dépendantes pour leur business des prêts bancaires. Vous prenez l'exemple d'un LVMH, un exemple classique que je cite souvent, mais qui est quand même parlant. Ils sont pas dépendants des prêts que les banques leur font pour développer leur business. Ils sont générateurs de cash tous les ans, etc. Donc je pense que il faut peut-être plutôt profiter de ce discount qui a touché tout le monde.
Donc c'est-à-dire si on a de la poudre sec.
Voilà.
Éventuellement,
on peut déjà tirer un premier coup de canon sur ces niveaux-là. Et après, le sujet, c'est plutôt dans ce qu'on achète. Est-ce qu'il ne faut pas quand même tenir compte du fait que des boîtes très endettées, dépendantes du système bancaire, etc., sont peut-être un peu plus à éviter que des boîtes qui génèrent du cash.
Donc voilà. Le facteur de ségrégation, c'est plutôt la dette.
Voilà. Et peut-être qu'effectivement, le secteur bancaire, alors vous savez que nous, on n'a jamais été chez Vega très investi dans le secteur bancaire, parce que dans la gestion croissance, c'est vrai que c'est pas des métiers qui répondent à ces critères-là. Mais c'est vrai que ça me donne pas encore très envie d'y revenir. Bon. Voilà.
Juste
avant d'y voir plus clair.
Aujourd'hui,
le rebond est pas très fort sur les banques ce matin.
Aujourd'hui, ça c'est le marché action. Donc c'est pas votre genre de beauté, mais malgré tout, est-ce que la situation du marché obligataire, notamment au moment avec cette inversion de la courbe, etc., est-ce que tout ça vous préoccupe?
Oui, alors là, si vous voulez, on l'a vu, la rémunération des emprunts d'État et du crédit hier a énormément chuté. On a vu, par exemple, l'emprunt d'État allemand à 10 ans, qui était vers 2,60 la semaine dernière, à 2,13, 2,14 hier. Donc ça s'est considérablement détendu. À ce niveau-là, nous, on a plutôt tendance à revendre des obligations, parce que effectivement, quand le taux rebaisse, ça veut dire qu'elles se sont appréciés, et donc on a plutôt tendance à couvrir les portefeuilles obligataires ou à revendre des obligations d'État à ce niveau-là. Voilà, donc le mouvement, c'est vraiment s'alléger sur l'obligataire qui s'est bien détendu rapidement.
Et saisir les opportunités sur le monde
d'action. Voilà. De boîtes non endettées.
Le regard ce matin de Marc Riez. Merci Marc. Vega IM qui nous accompagnait. Le marché parisien qui reprend quelques couleurs. On progresse de quasiment 1%. 6953 points. On va voir ce qu'il faut penser de cette tendance. Les aspects techniques. C'est Jean-Louis Cussac qui suit tout ça depuis Perceval. On le retrouve dans un instant. À tout de suite.
BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business. BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Allez, on démarre cette dernière demi-heure de BFM Patrimoine, demi-heure qui accueille cette semaine le grand débat du patrimoine. On le retrouve dans un instant, mais auparavant, c'est notre promesse à l'entame de chaque demi-heure. Un détour sur les marchés, des tours techniques, grâce à Jean-Louis Cussac, qui nous attend chez Perceval Finance Conseil et qui suit pour nous la séance du jour. Bon, voilà, nous revoilà au-dessus du pourcent de progression et on cravache vers les 7000 ou pas, Jean-Louis ?
Tout est possible. Vous savez, on a perdu 115 points en ligne droite. Et là, en ligne droite, quasiment, on a repris 72 points. Bon, c'est normalement, si vous voulez, une zone de vente sur rebond. Autour de 6960, 70 jusqu'à 80. Après, c'est plus sur signal technique, éventuellement. On a toujours une situation, si vous voulez, identique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de quelque chose qui ressort vraiment de la journée, comme hier, les bancaires. On a beaucoup de régularité sur le CAC. Vous voyez, en une heure de temps, avec cette reprise, c'est quoi? C'est Pernod Ricard, Danone, qui ont repris les plus fortes reprises. C'est du genre 1%. Et voilà, c'est assez régulier. Le dollar, lui, il se reprend un peu, mais il stabilise. Il reste quand même affecté. On a toujours une très grosse sensibilité aux options, je pense, hein. Et on a beaucoup de confusion, beaucoup de spéculation. C'est pour ça que le marché fait des écarts aussi importants, parce que oui, c'est important, et donc c'est perturbant dans le jugement, et il faut pas surestimer, surinterpréter ce que l'on observe. Il y a pas de sell-off, il y a pas de panique pour l'instant. Si vous voulez, évidemment, il y a une crainte qui est très forte, mais tout de suite les opérateurs, les investisseurs viennent se protéger en achetant des puts, par exemple, et ce qui fait que cette volatilité implicite a explosé. On est passé de, je vous disais, il y a 8 jours, on était autour de 13-14, et là, bien on sûr. Est à 25 sur le mois d'avril. 25, vous voyez, c'est vraiment beaucoup. Et donc, il y a une très grande réactivité des acteurs, des investisseurs qui viennent se protéger. Donc, ça limite, si vous voulez, la velléité à vendre sur le marché.
Merci beaucoup Jean-Louis. Jean-Louis Cussac donc, depuis Perceval Finance Conseil, et ce marché qui progresse d'1,09%, 6960 points, et ça reprend notamment des couleurs sur les financières, bien évidemment, l'euro 1,0608.
BFM Business, le grand débat du patrimoine.
Le grand débat du patrimoine, vous le savez, c'est un rendez-vous régulier sur l'antenne pour évoquer tel ou tel aspect de la gestion de patrimoine. Et cette semaine, on se penche sur les CGP, les conseils en gestion de patrimoine. Et on s'interroge notamment sur le contexte de ce métier. La météo est-elle favorable ou risque-t-on un avis de tempête? Autour de la table, pour en parler, Yves Mazin, bonjour.
Bonjour.
Vice-président de la CNCGP, Bruno Narchal, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, cofondateur, enfin président et fondateur de Cristal Finance, Cyril Blesson.
Bonjour.
Pour les cahiers de l'épargne, merci beaucoup d'être là également, et tout cela organisé sous la férule de Jean-François Filiatre. Bonjour Jean-François.
Bonjour Cédric.
Directeur éditorial de Marché Gagnant. Bon, débat ce matin, je le disais, autour des CGP, c'est un peu interpro, on va dire. Pourtant, d'habitude, vous adressez avec plus de gourmandise aux épargnants, à choupinette, là.
Eh oui, et en fait, je vais vous dire pourquoi on fait ce débat aujourd'hui, parce que j'entends souvent sur le plateau des gens qui parlent de choupinette, notamment des gens qui vendent du crédit immobilier, qui ne cessent de venir se plaindre ici parce que on ne peut pas mettre une corde au cou à choupinette. Alors, quand je les entends, je rigole bien, parce que je me dis, on est en train de parler de problématiques professionnelles et non pas de problématiques, beaucoup plus que de problématiques de clientèle. Alors, c'est très intéressant de parler business, c'est très intéressant de parler de problématiques professionnelles. Donc, on va le faire aujourd'hui sur le marché de l'épargne, sur une profession importante dans le marché de l'épargne, que sont les conseillers en gestion de patrimoine. Et pour entamer le débat, j'aurais tendance à dire, puisque vous évoquiez la météo, savoir si elle est favorable ou pas. Un chiffre est sorti hier, publié par la Banque de France. La surépargne Covid est de 157 milliards. C'est en hausse par rapport à l'année précédente. Donc, à première vue, on pourrait se dire météo favorable.
Bon, alors, on va voir un peu ce qu'en disent nos différents acteurs. Et commençons par le CGP de la bande, Yves Mazin, la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine que vous représentez. Essayons de voir un peu. Ces CGP, dans le monde de l'épargne, comment est-ce qu'ils se positionnent? Est-ce qu'ils ont gagné des parts de marché ces dernières années?
Alors, j'ai pas le chiffre exact de la part de marché dans la collecte, et j'espère beaucoup des chiffres que vous pouvez nous donner. En revanche, ce que l'on observe, nous, c'est le nombre d'adhérents, donc de nouveaux cabinets qui se créent, qui ne cessent d'augmenter. Ce qui veut dire que le nombre d'acteurs dans le métier de la gestion de patrimoine...
Alors qu'on voit aussi certains rapprochements, un peu de concentration parfois, il y a malgré tout aussi des nouveaux.
Exactement, c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc effectivement, il y a des cabinets qui se rassemblent, il y a d'autres raisons pour ça, mais il y a encore des acteurs qui viennent dans le métier. Ça veut dire que le marché est porteur.
Bon, donc, a priori,
météo favorable.
Pas non plus, ouais, météo favorable aussi de ce côté-là. Alors, Jean-François nous rappelait cette cagnotte, ce bas de laine issu pour certains qui ont pu le faire de l'épargne Covid. Si on rentre dans le détail de ce taux d'épargne et des flux, comment ont-ils évolué ces derniers temps, Cyril?
Alors, il y a un ralentissement du taux d'épargne après quand même, enfin une baisse du taux d'épargne après le choc Covid, mais on reste quand même avec des comportements très précautionneux de la part des ménages, puisqu'on a encore eu un taux d'épargne à 16,7% du revenu disponible cette année, qui est très supérieur à la norme. Ça devrait quand même un peu changer en 2023. Le revenu des ménages va être sous pression, il y aura moins d'aides d'État, il y a toujours de l'inflation, le marché de l'emploi pourrait se retourner, donc on aura probablement une poursuite de la normalisation du taux d'épargne vers des étiages un peu plus normaux
l'année prochaine. Cyril, juste le taux d'épargne, on va être sympa, mais pour Choupinette, là vraiment ça ne veut rien dire. Si on parle pupette, si on regarde les flux d'épargne,
combien
il y avait d'épargne, de flux d'épargne en 2020, combien il y a de flux d'épargne en 2022?
Alors tu parles de flux de placement financier ou de flux d'épargne?
De flux tels que vous les calculiez, traditionnellement dans votre profession.
Oui, alors nous, parce que nous on regarde le marché des placements financiers qui est très différent du taux d'épargne, parce que les ménages n'ont pas que leurs revenus pour épargner, ils ont aussi le crédit qui peut venir nourrir ces placements. Derrière un ménage qui fait un crédit, il y a pour acheter de l'immobilier, un ménage qui vend.
Bien sûr.
Et qui peut ensuite placer cet argent. Vous savez, le fameux adage, les crédits font les dépôts. Et donc ces flux sont en fort ralentissement quand même. On a quand même encore eu près de 69 milliards hors intérêts capitalisés qui ont été placés l'année dernière. Et on se dirige vers des très forts ralentissements avec le coup de frein du crédit.
Et les perspectives sont
pas très
ressemblent
très...
à quoi?
Elles sont pas très réjouissantes pour les deux années à venir avec la contraction du crédit habitat qu'on attend.
Ah oui.
Les flux de placement vont être très fortement impactés et ralentir très fortement, hein, hors intérêt capitalisé, parce que ça nourrit les placements un peu de façon artificielle. On va tomber à 39 milliards et 22 milliards en 2024. Ouais. Hein, donc c'est un fort ralentissement. L'année dernière, on était à 69, pour vous donner une ordre d'idée.
Donc, quand au quotidien, on vous parle des questions de crédit avec Marie-Cœur de Roy, ça vient aussi impacter ce monde de l'épargne. Comment ces années se sont passées pour la CNCGP, justement?
Alors, pour la CNCGP, on a continué à avoir beaucoup d'adhérents arrivés. Pour les CGP en tant que tels, ces trois années de crise, hein, 2020, 2021, 2022 et 2023 maintenant. Et en fait, on s'aperçoit que quand il y a une crise, les CGP sont présents, réactifs. Et beaucoup de mes confrères me disent qu'on a fait des excellentes années, alors que je peux vous dire que courant 2020, il était difficile de prévoir une fin d'année plutôt positive, alors que le climat était délétère.
Oui. Bon, le digital vous a bien aidé aussi.
Exactement. Ouais. On est réactif et on est adaptable.
Bruno, Cyril nous dit que la tendance est à la baisse de l'épargne. Aujourd'hui, vous commencez à la voir ou pas?
Ah, nous, on ne voit pas du tout de baisse de l'épargne. On est en progression constante. Et je pense que si on regarde les CGP dans leur ensemble, les CGP progressent, je crois, en termes de croissance. Trois fois plus vite que le marché général, et nos structures progressent trois fois plus vite que la moyenne des CGP. Donc on ne peut pas dire que je vois de baisse de l'épargne dans nos métiers.
Comment voyez les choses?
Je partage tout à fait cet avis, parce qu'en fait dans l'épargne il y a plusieurs flux d'épargne, et quand les gens viennent nous voir, c'est parce qu'ils ont besoin d'un conseil spécifique. Et donc j'ai envie de dire, on capte cette épargne qui s'inscrit dans la durée, et on les aide à mettre du sens à cette épargne. Et donc c'est pour ça que je ne vois pas les flux se rétrécir.
Il y a quand même une question qui peut venir aussi de l'inflation, parce qu'on voit ces chiffres, notamment sur l'alimentaire, etc., parce que vous nous emmeniez dans le monde immo, mais il n'y a pas que ça. Est-ce que les ménages, vous avez l'impression, ils réduisent aussi parce qu'ils ont besoin finalement de plus pour consommer? Enfin, est-ce que ces questions alimentaires un peu bassement matérielles ont un impact sur ces grandes sphères de l'épargne?
Alors là, on parle au niveau ménage agrégé. Bien évidemment, il y a des ménages en bas de l'échelle qui sont obligés de faire des arbitrages de ce type, mais de toute façon, ils n'ont pas des flux d'épargne en temps normal très élevés. Mais c'est plutôt un phénomène qu'on va voir arriver, je pense, maintenant en 2023-2024, où là, le revenu des ménages va commencer à être vraiment impacté par l'arrêt des aides d'État, etc., et le maintien de l'inflation. Et donc, le taux d'épargne l'épargne va baisser parce que les gens seront de plus en plus contraints.
De plus en plus contraints. Ce qui, enfin, l'important, Jean-François, c'est la collecte plus que ces arbitrages.
Après, c'est important. Ce qui est important, c'est toujours pareil. Je dis, quand on a un chiffre, on a l'impression d'avoir une vérité. Et tant qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière le chiffre, la Banque de France, par exemple, publie des chiffres de flux de placement en intégrant les intérêts capitalisés. Oui. C'est une donnée intéressante sur le financement de l'économie, puisque les intérêts qui tombent et qui sont réinvestis, ils vont bien financer l'économie. Est-ce que ça fait du new business pour un CGP de comptabiliser un intérêt capitalisé? La réponse est non. Donc moi, c'est pour ça, j'aime bien tous les chiffres qu'on peut se balancer sur la tête, sur la place.
Oui. Faut savoir de quoi on parle.
Faut savoir exactement de quoi on parle.
Quand on est distributeur. On vit les choses comment? Comment est-ce que vous ressentez ou pas déjà cette baisse, ces questions, ces interrogations chez certains?
Alors, je rejoins Yves parce que nous sommes distributeurs, mais nous sommes surtout conseils de nos clients. Donc, notre métier, c'est véritablement d'accompagner nos clients dans la durée. Et dans les périodes qu'on traverse aujourd'hui, c'est de plus en plus complexe. Je veux dire, avec une inflation, des taux qui est pas encore galopante, mais encore qui est beaucoup plus élevée que celle qu'on avait eue ces 20 dernières années.
On a vu encore l'inflation française hier. Elle est au plus haut depuis 85.
Absolument. Et donc, nos clients ont besoin de plus en plus de conseils. À l'époque où c'était plus facile d'investir sur un contrat d'assurance vie en fonds en euros. Aujourd'hui, on s'aperçoit que nos clients ont besoin d'être accompagnés dans la durée. Et je rebondis là-dessus parce que, certes, il y a une espèce d'offensive actuelle des banques avec les DAT, mais ce n'est pas notre métier, ça.
Rappelez les DAT ?
Les dépôts à terme. C'est-à-dire qu'il y a des offres bancaires de dépôts à terme qui sont... je crois qu'on trouve des offres de l'ordre de 3% aujourd'hui sur des périodes de 12 mois. Les compagnies d'assurance elles-mêmes, du reste, font de la contre-attaque en offrant font un peu de dumping et offrent également des taux majorés pour la nouvelle collecte, pas pour les stocks. Et donc, mais c'est du court terme. Pour nous, notre métier, ce n'est pas ça. Notre métier, c'est d'accompagner dans un très long terme nos clients dans la complexité de leurs problématiques patrimoniales qui sont extrêmement nombreuses.
Je blague, je lance un débat. Bruno vient de dire, nous, distributeurs, qui a le pouvoir dans le marché de l'épargne? Les producteurs ou les distributeurs, Yves?
Dans l'immédiat, j'ai envie de dire que les producteurs ont encore bien la main ont le pouvoir, oui.
Je ne sais pas ce que veut dire exactement le pouvoir. Moi, j'ai l'impression que d'abord, c'est un pouvoir partagé, mais j'ai l'impression que les distributeurs prennent de plus en plus de pouvoir, notamment avec l'arrivée des distributeurs... de taille importante qui sont en train d'émerger, qui sont en train de se concentrer à l'heure actuelle. Donc je pense que les distributeurs aujourd'hui ont de plus en plus de pouvoir. Pourquoi ? Parce que les distributeurs sont en contact avec le client, donc directement le client final. Alors que les producteurs, finalement, on s'aperçoit que si on prend une société de gestion qui est un producteur, est très rarement en contact direct avec son client s'il n'a pas un CGP qui vient lui conseiller.
Et si je provoque, si je vous dis, en fait, je suis pas d'accord avec vous,
De toute façon, il a le rôle du troublion.
Mais je pense qu'on est d'accord à 50-50.
Non, mais, en fait, moi, j'ai tendance à dire que sur le marché des pains, ceux qui ont le pouvoir, c'est les banques assureurs. C'est la banque universelle. Et que, en fait, parce qu'ils sont producteurs, parce qu'ils sont distributeurs, parce que c'est eux aussi, vraisemblablement, qui ont les meilleurs lobbies, et que si je coupe les marchés de l'épargne en plusieurs marchés de l'épargne, parce qu'en fait, des marchés de l'épargne, il y en a trois. Il y en a un, c'est le marché du crédit. Il y en a un, c'est le marché de l'épargne de court terme. Et le troisième, c'est le marché du moyen-long terme. Le crédit, monopole des banquiers. Pas de discussion possible, ils ont le pouvoir. Épargne de court terme, c'est du produit bancaire. Donc, monopole des banquiers, quasi-monopole des banquiers, même s'il y a des distributions, notamment de comptes à terme, par des conseillers en gestion de patrimoine. Et épargne de long terme, 60% du marché est tenu par les banques assureurs. Donc aujourd'hui, la réalité de la place, c'est que c'est le banque assureur qui fait sa loi. Quand le régulateur nous dit, quand le ministre nous dit, l'épargne en France, elle est mal allouée et que les Français passent pas bien leur argent... Déjà, ils s'en sortent pas si mal, puisqu'on a eu ce matin les chiffres de l'Observatoire de l'épargne européenne qui nous a dit qu'en 2022, la performance du patrimoine financier des Français, c'est -0,8 après 4,5 l'année précédente. Donc, c'est pas si mal.
A priori,
c'est pas si mal
que ça
dans un environnement qui a été compliqué. Mais en fait, quand le ministre nous dit, l'épargne, elle est mal placée, moi, j'ai envie de lui répondre, allez voir les banquiers, quoi. Parce que c'est eux qui font le crédit, c'est eux qui font le court terme, mais c'est eux qui font le long terme.
Oui, certes.
Encore une précision.
Certes, mais je ne sais plus ce que je voulais dire du coup. Mais les parts de marché aujourd'hui, qui sont les parts des CGP, on ne les connaît pas exactement, ni le nombre de CGP d'ailleurs, ni les parts, mais on peut estimer la part de marché des CGP aux alentours de 7%. C'est entre 6 et 7%.
Ça laisse de la marge.
Avec de la marge. De la marge, effectivement. Mais si on regarde dans d'autres pays européens, en Angleterre, on est à 40%, je crois, de part de marché pour l'équivalent des CGP. En Italie et en Allemagne, on doit être plutôt proche des 20%. Donc on a beaucoup de retard là-dessus. Et aujourd'hui, les gains, on va beaucoup plus vite. Les banques perdent des parts de marché. Nous, on gagne des parts de marché.
Yves Mazin.
Ouais, très rapidement, je pense qu'aujourd'hui, les banques, comme les banques et assureurs, ils ont le pouvoir de court terme. Ils ont fermé les vannes du fonds en euros. Ils les réouvrent pour leurs besoins internes. Mais je pense que nous, en fait, on influe sur leur stratégie de distribution long terme. Puisque très souvent, on est précurseur dans la mise en avant de produits qu'on va retrouver plus tard avec des produits qui évoluent. Donc c'est pour ça que c'était une réponse 50-50.
Et juste, je voudrais rajouter, c'est que c'est pour ça que j'insiste sur le fait que nous ne sommes pas distributeurs. Nous sommes conseils des clients. Et la grande différence entre les banques et nous, je pense, même si certaines banques font du conseil, bien évidemment, c'est la relation de confiance, la fidélisation du client, la relation long terme que nous établissons avec nos clients. Moi, j'ai des banques, comme tout le monde ici, et j'ai changé en espace de, j'ose pas dire la durée, mais j'ai changé 10 à 15 fois de conseiller bancaire. Je ne connais même pas.
Ah ben, oui. Voilà. Donc, ça, on est d'accord. Combien de questions d'auditeurs répond-on chaque année autour du conseil, du conseiller bancaire qu'on ne connaît pas? C'est un des points forts aussi du CGP, ça.
C'est la durabilité.
Oui, comme on dit, c'est un peu le médecin de famille, le CGP, qui ensuite oriente son client vers tel ou tel spécialiste pour gérer au mieux l'épargne.
C'est la valeur ajoutée de notre métier, c'est-à-dire que quand on s'installe dans la durée et on accompagne le client pas à pas avec un process qui est extrêmement normé, ce qui fait que le client sait à qui il s'adresse, pourquoi il est chez nous et ce qu'on va lui proposer.
Et vous vous sentez comment face à une banque? Vous vous dites, réglementairement parlant, je ne joue pas tout à fait dans la même cour.
On ne joue pas dans la même cour parce que le poids de la réglementation est tel et change tellement vite que pour un cabinet de taille moyenne, ça demande de la souplesse. C'est là où les chambres, et notre chambre a un rôle important en donnant les éléments, un kit réglementaire qui est régulièrement actualisé. Mais c'est vrai que quand la réglementation change, le banquier a une longueur d'avance parce qu'il a des équipes pléthoriques pour s'adapter à ce truc-là.
Et vous, Bruno, comment est-ce que vous voyez les choses face à cette réglementation? Votre croissance s'explique aussi
Notre croissance s'explique en grande partie à cause de la réglementation qui pousse les cabinets effectivement
à grossir.
Si je vous cite, la réglementation occupe un temps extrêmement important des cabinets, des CGP. Mais si vous parliez de taille, des banques, la capacité à faire face à ça, nous avons par exemple en interne, nous avons 24 ingénieurs patrimoniaux qui ne font que du conseil et qui apporte du soutien à nos CGP.
Voilà donc
la taille nécessaire.
Si je peux juste rajouter une petite chose, je pense que le développement de l'épargne retraite est un facteur de développement de la profession CGP. On regarde les pays où la profession est le plus développée, c'est les pays où les fonds de pension sont très développés, parce que faire des allocations stratégiques pour sa retraite à long terme, ça nécessite du conseil pour rebondir.
Oui, quelque chose de très personnalisé, parce que tous les cas ne se ressemblent pas. Jean-François nous parlait aussi, il y a un instant, des banques assureurs. Cyril, quelles sont selon vous les prévisions en termes de flux, de collecte, etc., sur ces différents placements? Est-ce que les banquiers rentrent dans le jeu?
Alors les banquiers rentrent carrément dans le jeu parce qu'on a parlé du ralentissement des flux, mais on a oublié de parler des arbitrages sur les stocks qui sont énormes. Il y a eu beaucoup d'épargne Covid, on en parlait en introduction. Il y a eu beaucoup de dépôts à vue de la part des ménages dans toute cette période où les taux étaient nuls. On est à peu près à 600 milliards de dépôts à vue des ménages juste sur leur compte chèque, hein, non rémunéré. Donc forcément, dans une phase où les rendements remontent, notamment les rendements sans risque, le livret A, les comptes à terme, etc., il y a d'énormes réaffectations du stock qui sont en jeu aussi au-delà du nouveau flux d'épargne. Et là-dessus, nous, on table par exemple sur une décollecte massive des dépôts à vue qui a déjà commencé. Hein. Depuis juillet, j'ai des encours de dépôts à vue qui baissent de près de 40 milliards. Hein. C'est pas rien, ça fait du stock qui se réaffecte. En prévision sur le livret A, le LDD, on est sur, avec un taux à 3% qui pourrait encore monter à l'été, on est sur des collectes énormes de l'ordre de 60 milliards pour les deux produits hein, cumulés. Et puis on a ces comptes à terme qui vont collecter quelque chose comme 25 milliards aussi. Donc on a d'énormes réaffectations. Et puis on a une assurance vie qui est quand même en souffrance hein, du fait de l'écart taux du livret A, taux de l'assurance vie. Je sais que les professionnels n'aiment pas qu'on compare les deux produits, mais épargnants, eux, les comparent. Dans les comportements des épargnants, avec leur préférence pour la liquidité. Et on a heureusement un marché qui continue d'être dynamique, c'est l'épargne retraite. Voilà, parce que là, il y a, avec la réforme des retraites, en plus, une vraie prise de conscience de la part des épargnants.
Juste, Cédric, je me permets de rebondir quand même, parce que on est en train d'évoquer des contraintes de business, donc de concurrence, de comment ça fonctionne, et on aimerait tous que le marché soit concurrentiel. Parce qu'on se dit qu'un marché où il y a de la concurrence, c'est un marché qui est plus optimal qu'un marché où il n'y a pas de concurrence. Moi, j'attire juste, Cyril nous dit, il va y avoir les flux baissent, mais il va y avoir un enjeu majeur sur les transferts. Donc les transferts, c'est le transfert du dépôt à vue qui peut aller vers...
Vous allez nous replanter le drapeau de la transférabilité de l'assurance-vie, là ?
Bien sûr. Non mais attendez, on a effectivement, dans des marchés qui sont des marchés comme ça, le sujet de la transférabilité qui doit être traité. Et puisque je dis qu'on doit traiter les sujets, non pas de manière globale dans l'écosystème...
On rappelle hein, qu'on peut transférer à l'intérieur d'une compagnie, enfin quand tout le monde
pas,
est d'accord,
mais pas en changeant de compagnie.
Là,
on revient sur un sujet. Vous savez, ma formule, c'est de dire un écosystème, c'est un truc qui prend en compte l'ensemble des parties prenantes. Et quand on en oublie une, en l'occurrence les épargnants, ça devient un système. Donc, il y a le sujet de la transférabilité qui revient. Et on va être très honnête, puisque vous savez que je défends ce sujet-là. Il y a des distributeurs. Le sujet de la transférabilité pose des questions de rémunération au niveau des distributeurs qu'il faut traiter également. Mais aujourd'hui, très clairement, dans un marché où les flux nouveaux vont baisser, je pense que c'est un...
Enfin, ça donne des risques aussi, enfin, on en a déjà parlé, mais je veux dire, on sait que certains politiques ont un peu le couteau entre les dents et que si on pousse la transférabilité pour avoir une transférabilité totale, il y en a qui disent, bah, du coup, nous, on légiférera et on
vous faire une confidence, les avantages. Des endroits où il n'y a pas de risque, j'en connais pas. Oui, le système de banque universelle à la française, je ne suis pas sûr qu'il ne porte pas de risque.
Bruno, voilà, entre la comparaison sans doute excessive, mais qui se fait quand même dans la tête des gens, entre livret A et contrat d'assurance vie, etc., enfin fonds euro, et ces risques inhérents à une éventuelle transférabilité totale, est-ce qu'on peut se dire, oh, l'assurance vie, elle a connu des jours meilleurs ?
Moi, je pense que l'assurance vie a encore des beaux jours devant elle. Quand je parle d'assurance vie, j'englobe aussi le PER, qui aujourd'hui, les PER, sont principalement des PER assurance. Donc globalement, l'assurance vie dans son ensemble, je sais qu'on ne partage pas forcément cet aspect-là, l'assurance dans son ensemble a encore des beaux jours. Et puis l'assurance est quand même un véhicule, l'assurance. Aujourd'hui, vous avez effectivement des livrets qui rapportent un petit peu plus que ce qui rapportait avant, mais bon, dans l'assurance vie, les taux en euros vont s'améliorer. Vous avez la possibilité d'aller sur des SICAV monétaires, vous pouvez arbitrer sur différents supports, vous avez du conseil. C'est un produit de long terme. Voilà, je pense qu'il faut considérer les produits en fonction de leur utilisation et des besoins de nos clients. Il y a du court terme, il y a du long terme, il y a du moyen terme.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette espèce de spéculation sur l'assurance vie ?
Ouais, en fait, on compare des choses qui ne sont pas comparables. Le livret, c'est de la trésorerie de court terme. L'assurance vie, c'est une stratégie de long terme. On a des taux courts, des taux longs. La transférabilité, c'est une fausse bonne idée parce que comme on est dans un système qui marche en mark-to-market, si je transférais mon fonds en euros à sa valeur de marché actuelle, je serais obligé d'accepter une perte. Donc voilà, pour moi, l'assurance vie a encore de longs jours devant elle, parce que c'est vraiment une boîte à outils vraiment adaptée au long terme.
Bon, juste avant de terminer, il nous reste une minute, donc il va falloir être très rapide. Ouais. Un mot de la rétrocession. On en a parlé cette semaine avec Géraldine Métifeux. On dit quoi, stop ou encore ?
Fausse bonne idée, Géraldine a parfaitement répondu au problème.
Voilà, vous renvoyez tout le monde au replay, très bien.
Voilà. Non, mais tout à fait, exactement. Il ne faut pas interdire les rétrocessions, ça entraînerait...
Je crois qu'il faudra en faire un débat, Jean-François.
Ouais, voilà. Ça entraînerait la perte du conseil pour un certain nombre de clients intermédiaires.
Bruno. Je suis tout à fait d'accord avec Yves, bien évidemment. Mais après, si on doit le subir, on est armé pour faire face à ça.
On conclut, Jean-François ?
Très rapidement, faut pas se voiler la face. Les choses sont en train de bouger sur le fond du marché de l'épargne, avec ce qui est en train de se passer sur le marché du crédit, avec ce qui est en train de se passer sur le marché des taux. Et donc, on suivra ça avec attention.
Et donc, pour ceux qui veulent en savoir plus sur ces questions de rétrocession et un peu la vie d'un CGP, on vous renvoie au replay que vous retrouvez sans difficulté, où Géraldine Métifeux pour Alter Egal est venue en début de semaine nous en parler. Merci à tous les quatre d'avoir été là. Yves Mazin pour la CNCGP, Bruno Marchal pour Cristal Finance, Cyril Blesson pour les cahiers de l'épargne et Jean-François Fillatre. On se retrouve jeudi prochain.
Je sais pas.
Oh, il va bouder. pour marcher gagnant, dans un instant, c'est 90 minutes business. Et on accueille donc Sandra Gandoin.
Bonjour Cédric.
Bonjour. Votre sujet, enfin votre sommaire du jour.
Il y en a
plutôt.
Deux, hein, aujourd'hui. Ouais. Deux inévitables sujets. La réunion cet après-midi de la Banque Centrale Européenne. On sera en direct de Francfort avec Aude Kersulec. On parlera aussi de Crédit Suisse. Hein, ça allait mieux sur les marchés ce matin. Avec Caroline Morisseau, on va décrypter cette situation avec Jean-Marc Daniel également. Et puis aussi ce vote de la réforme des retraites. C'est passé au Sénat, on attend ce que va faire l'Assemblée cet après-midi. On y reviendra avec Jean-Marc. Et puis on parlera de la reprise de la Chine aussi avec notre invité Jean-Baptiste Monnier de l'Asia Centre. N'oubliez pas, deuxième partie d'émission, 12h55. Lorraine Goumeau répond à toutes vos questions.
C'est à suivre dans un instant. Le marché, lui, va un petit peu mieux qu'hier midi. Je vous rassure, Sandra, on gagne 0,77%, 6938 points sur le CAC 40. À suivre donc cette BCE que vous pourrez largement décrypter avec BFM Bourse. Et en attendant, ce sera Stéphane Pedrazzi qui vous accompagnera au moment de ce communiqué de la Banque Centrale Européenne. Et moi, je vous dis à demain, 10h.
BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business.